Vous écoutez RTL. RTL dimanche soir, le MacPol,
Vincent Parisot.
Le MacPol, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec Olivier Mazerolles. Bonsoir.
Bonsoir.
Et au sommaire, les coulisses de la visite d'Emmanuel Macron en Guyane, la désignation annoncée de Christophe Castaner à la présidence de la République En Marche. On verra ce que sont devenus et ce que pensent aujourd'hui les marcheurs du début de l'aventure. Et puis évidemment, retour sur le grand jury RTL, Le Figaro et LCI, dont l'invité était à la mi-journée Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes qui brigue la présidence des Républicains et qui est même achi favori. Il se pose en opposant numéro 1 à Emmanuel Macron.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolles sur RTL.
Alors Olivier, je crois que vous voulez vous arrêter sur ce qui se passe en Espagne et en Catalogne. Vous y voyez les relents du passé ?
Oui, bien sûr. Ce qui se passe en Espagne et en Catalogne, évidemment, ça concerne tout d'abord les Espagnols, mais ça concerne aussi toute l'Europe. Parce que d'abord, il y a un risque de dislocation qui est important, mais aussi, on voit que les nationalistes sont en train de ressusciter les dictateurs du passé pour servir leur cause ou tenter de servir leur cause. Ils prétendent, les nationalistes, un peu partout en Europe, d'ailleurs, parler au nom du peuple. Et qu'est-ce qui se passe en Catalogne ? Eh bien, les indépendantistes nous expliquent que l'Espagne d'aujourd'hui ressemble à celle de Franco. C'est un mensonge éhonté. En Espagne, il y a une liberté d'expression totale. Les régions bénéficient d'un régime d'autonomie extrêmement large. Et sur le plan culturel, eh bien, la Catalogne, aujourd'hui, peut parler le catalan, ce qui était interdit à l'époque de Franco. Et même le catalan est devenu presque une langue obligatoire dans l'enseignement primaire, voire secondaire, au détriment de l'espagnol. Donc, ce serait plutôt l'espagnol qui s'est brumé en Catalogne que le catalan. Et puis, la même chose en Allemagne. Regardez, l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, qui est un parti d'extrême droite et qui lui aussi veut parler ou prétend parler au nom du peuple, eh bien, il s'est insurgé l'autre jour parce que le Parlement allemand, pour sa session de rentrée après les élections, a changé la tradition, a dit que ça n'était plus le doyen d'âge qui allait s'exprimer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le doyen d'âge était un élu de ce parti d'extrême droite. Il venait de déclarer que la Shoah était un mythe. Et dans ce parti, il y a quand même des gens, notamment un de ses dirigeants, qui récemment a dit qu'il fallait être fier de l'attitude des soldats allemands durant les secondes guerres mondiales, incluant donc dans ses louanges les SS. Donc le Parlement allemand a décidé qu'on allait changer la règle. Eh bien, ce même parti, dans lequel des membres importants tiennent ce style de propos, dit « Comment ? Mais cette tradition a été amputée une seule fois dans l'histoire allemande sous Göring et Hitler. » C'est-à-dire, il se réclame maintenant, il dénonce l'Allemagne d'aujourd'hui comme si elle se comportait comme celle d'Hitler et de Göring. Vous voyez,
c'est une vraie menace pour l'Europe à ne pas prendre à la légère.
Écoutez, c'est quand même ahurissant de voir le délabrement culturel et à quel point on peut mentir pour essayer d'exacerber les passions.
Merci Olivier Mazerolles. Évidemment, vous restez avec nous hein, tout au long de ce MacPol pour commenter l'actualité politique et notamment ce qui s'est passé aujourd'hui sur RTL. À la mi-journée, Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui brigue la présidence des Républicains, était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro SCI. On va débriefer dans un instant, mais tout de suite, on le réécoute. C'était à la mi-journée et il a attaqué bille en tête le président de la République sur son rapport à la France, sur son rapport aux Français et à la nation.
Parfois, quand je lis et j'écoute les commentateurs sur Emmanuel Macron, j'ai parfois l'impression que là, on est dans la caricature. Que tout est si merveilleusement beau, que tout est si merveilleusement parfait, que Jupiter est sur son nuage et que tous les Français sont heureux. Et curieusement, quand moi je vais chez moi dans ma région, quand je sillonne la France comme je la fais, je vois très nombreux Français qui sont de plus en plus préoccupés par ce que fait Emmanuel Macron, qui comprennent de moins en moins son caractère et la façon dont il agit. D'abord, la première chose. Sur son programme, j'ai de profondes divergences. Sur l'économie, on y viendra.
Oui.
Je pense que son programme ne redressera pas notre pays. Deux, sur la fiscalité, je pense que son programme est profondément injuste pour les classes moyennes et pour les retraités. Enfin, sur le régalien, on en a parlé, je pense qu'il ne prend pas la mesure des menaces du pays. Deuxièmement, je ne sens pas chez lui une vision de la France. Et je le dis très simplement. Au fond, quel est le seul discours où il y avait vraiment un souffle qu'il a fait ? C'est celui sur l'Europe. Il n'a jamais exprimé ce qu'était sa vision de notre pays. Il parle de Startup Nation, il ne parle pas de nation française. Il parle de nation européenne, il ne parle pas de nation française. Et je me permets d'ajouter que je trouve parfois chez lui, et visiblement les Français le ressentent très fortement, beaucoup de froideur. Un vrai manque d'empathie quand il va vers les Français. Et au fond, une forme d'arrogance. Quand par exemple, il déclare dans une start-up « En France, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien ». Moi, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que l'ouvrier de Belfort soit la France qui ne réussisse rien. Je ne crois pas que l'agriculteur, c'est la France qui n'est rien. Je ne crois pas qu'il y a juste ceux qui réussissent dans la mondialisation.
Mais quand il va en Guyane et qu'il dit « je ne suis pas le Père Noël », ça c'est ses propos.
Il ne sait pas la démagogie.
À vous.
Le sujet, Monsieur Tréhard, c'est qu'à un moment, les Français attendent de la fermeté. Ils attendent des convictions. Ils attendent une vision du pays, ce qu'Emmanuel Macron n'explique jamais. Ils n'attendent pas un petit président arrogant et capricieux qui, dès qu'on ose le contester, hausse le ton et vous demande de vous taire. Je vais prendre des témoignages qui, moi, m'ont marqué. Quand je vais à Belfort, il y a un ouvrier d'Alstom qui fait le déplacement pour venir me rencontrer et qui me dit « Monsieur Wauquiez, j'ai souvent voté à gauche et je vous soutiendrai parce que ce que nous, on sent, c'est que ce président ne nous aime pas. Ce que je pense profondément, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est ceux qui réussissent dans la mondialisation. Et les autres, il ne les prend pas. Moi, la droite que je défends, c'est la droite qui défend la France qui travaille. »
Christophe Jacubizy.
Est-ce que ça vous gêne ou ça vous agace quand Marine Le Pen dit que vous faites partie de ces responsables politiques qui, en réalité, tiennent exactement les mêmes propos que nous ?
Il y a une différence fondamentale pour moi par rapport au Front National et sa conception de la France. La conception que défend le Front National, c'est une France qui se recroqueville sur elle-même et s'enferme derrière la palissade du village gaulois. La conception de la France que je sens chez Emmanuel Macron, c'est la France est sommée de sauter dans le train de la mondialisation et pour réussir, elle doit se renier. La conception que moi je défends, c'est la France doit retrouver ses valeurs. Elle doit se retrouver pour réussir et rayonner.
RTL dimanche soir,
le Macpol.
Voilà donc pour l'essentiel, hein, de l'esprit en tout cas, de l'intervention au grand jury RTL, Le Figaro, LCI de Laurent Wauquiez à la mi-journée sur RTL. On y revient avec Benjamin Sportouche d'RTL, Yves Tréhard du Figaro, Christophe Jacubizine de LCI. Ce qu'on retient quand même, messieurs, c'est qu'il se positionne en premier opposant d'Emmanuel Macron, en anti-Macron. C'est ça, Yves Tréhard ?
Oui, il veut être le premier opposant à Emmanuel Macron. C'est logique, je dirais, puisque c'est quand même le parti, après La République En Marche, Les Républicains, qui a le plus d'implantations locales. Et c'est le parti le plus important aussi à l'Assemblée nationale, après La République En Marche. Et il veut... Eh bien, aspirer effectivement vers lui énormément d'électeurs qui viennent de la droite dure, du Front National, pour essayer de rassembler de ce côté-là, si vous voulez, face à Emmanuel Macron.
Christophe Jacubizine.
Oui, mais c'est pas gagné, parce qu'aujourd'hui, le principal opposant de Macron, c'est Mélenchon. Et en plus, beaucoup d'électeurs de droite, contrairement à ce qu'il dit, sont pour l'instant séduits par la politique de Macron, notamment son plan économique.
Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se positionne en anti-Macron, quand même, en priorité, sur le plan sociétal et sur le plan fiscal, mais pas trop sur le plan économique.
Bien oui, parce qu'en fait, c'est une question de curseur, hein, à l'entendre. Bon, il nous a fait un petit programme économique là, mais on n'a pas vu de différence majeure, vous voyez, comme il pouvait y en avoir avec François Hollande, hein, sur nationalisation, privatisation, sur l'intervention de l'État et tout ça. C'est compliqué parce que dans ce budget, il y a des choses qui leur conviennent. Alors, ils sont contre la réforme de l'ISF, mais en même temps, l'ISF n'est pas complètement supprimé, donc ils ont du mal à protester contre cela. Il dit que les classes moyennes ne sont pas favorisées, mais en même temps, on le voit, certaines le seront parce qu'il y aura une taxe d'habitation en moins et des cotisations sociales qui seront moindres. Donc à chaque fois, il est dans cet entre-deux face à, en même temps, d'Emmanuel Macron. Donc ça le met dans une difficulté. Et de fait, quand Jean-François Copé dit « la droite a trouvé son président », eh bien c'est vrai que pour partie, la droite se retrouve dans Emmanuel Macron. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de Laurent Wauquiez pour se situer.
C'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il insiste sur un certain nombre de thèmes qui sont clairement ancré à droite. Je vais le citer, hein. La France doit retrouver ses valeurs. L'ennemi, c'est l'intégrisme islamiste. Il est contre les menus de substitution à l'école. Donc tout ça, c'est quelque chose qui fait résonance, j'imagine, à droite et même à l'extrême droite.
Mais c'est parce que son fonds de commerce, hein, électoral, là où il doit aller chercher de la part de marché, justement, après ce qu'on vient de dire, c'est pas au centre droit, où pour l'instant les électeurs sont, en tout cas à court terme, séduits. C'est évidemment plus à droite. Et donc, là où il peut capter des électeurs suffisamment pour pouvoir accéder à un éventuel second tour en 2022, c'est effectivement ces Français qui eux sont séduits par le Front National.
Ce qui est intéressant, ce qui est assez cocasse, c'est de voir que finalement, ils font tous la même lecture de la France. Mmh. Que cette France, elle est divisée en deux, entre ceux qui sont dans le train de la mondialisation et ceux qui n'y sont pas. Mmh. C'est vrai chez Le Pen, c'est vrai chez Macron, c'est vrai chez Laurent Wauquiez. Eh bien, je crois qu'ils ont tort, et les uns et les autres, de continuer à voir cette fracture de la France, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est plus compliqué que ça. Mmh. Et vous voyez qu'il y a énormément de gens qui habitent, qui résident dans des zones reculées, rurales, qui votent Macron, je suis désolé, et vous avez énormément de citadins qui protestent en votant Marine Le Pen et Wauquiez. Mmh. Donc c'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que aujourd'hui, ce que attendent les électeurs, c'est un discours de sincérité. Est-ce que le discours de Wauquiez aujourd'hui est un discours de sincérité?
Moi, je suis vraiment convaincu de ça, en plus d'autant que finalement son discours sur la France à l'écart de la mondialisation, une sorte d'Albanie post-moderne, les Français n'y croient pas. C'est-à-dire que on sait très bien que même s'il y a des défauts dans la mondialisation, même si ça crée des inégalités, mais on peut pas rester sur les quais de ce train de l'histoire. Mmh. Donc, et lui-même le sait. Et cette insincérité, à mon avis, va lui coûter.
Attention, il joue quand même sur un défaut d'ancrage territorial d'Emmanuel Macron. Oui. Et c'est vrai qu'il n'a pas ça, Emmanuel Macron. Et ça peut faire écho ce qu'il dit sur le fait, dans le JDD, de manière très dure, qu'il n'aime pas la France. Alors peut-être de manière excessive, la province, bien sûr, pour le renvoyer dans le parisianisme. Mmh. Et ça, oui, ça peut marcher. Parce que c'est vrai que Laurent Wauquiez, il a pour lui un parcours d'élu. Mmh. On ne peut pas lui contester ça. Il est dans une grande région. Donc il y a quand même cet ancrage-là. Mmh. Et les Français ont toujours été sensibles à cela. Ils n'aiment pas les présidents qui sont déconnectés. Et ça, en cela, je pense qu'il va jouer beaucoup là-dessus.
Il joue sur les faiblesses et le talon d'Achille de Macron. Et il a raison, mais ça ne suffit pas à faire un programme politique pour 2022.
Mais quand même, ce qu'il dit sur Emmanuel Macron, on sent bien que ça a été travaillé, on le disait, face à Jean-Luc Mélenchon. C'est dans les mots qu'il peut faire la différence. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un tribun, il imprime la moindre phrase qu'il dit aujourd'hui, eh bien, elle est médiatisée et il mène le débat, il mène l'affrontement. Mmh. Donc, Laurent Wauquiez, qui n'a jamais été très tendre, qui a toujours un vocable très tranché et très clivant, il va l'être plus que jamais, parce que finalement, il se dit, et même dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on dit ? C'est que Emmanuel Macron est en train de faire une OPA sur la droite et qu'il est en train de se détacher de sa gauche. Il veut être le candidat du centre-droit et donc éventuellement du centre-gauche. Donc cet espace-là, il est en train de se limiter. Donc on va avoir un Laurent Wauquiez volontairement caricatural, comme il a su l'être dans le passé. Eh bien, il va continuer à l'être plus que jamais pour faire la différence.
Et sa voix peut être entendue par une partie des Français, parce que précisément, Marine Le Pen est dans une situation, une passe vraiment très compliqué. Donc, il n'y a pas un leadership incontestable et incontesté de Marine Le Pen. Et pour lui, ça lui offre un boulevard. Mmh. Il le dit, il l'a dit, il ne faut pas lui faire de mauvais procès. Il a dit, hors de question pour moi de passer quelque alliance avec le Front National.
Oui, il l'a dit clairement.
Mais ce qu'il vise, ce sont évidemment les électeurs qui pourraient être orphelins d'un Front National affaibli ou sans leadership.
Merci messieurs. Et avant de marquer une pause, je me tourne quand même vers vous, Olivier Mazerolle. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Oui, moi j'ai été frappé d'entendre Laurent Wauquiez être extrêmement dur dans chacune de ses réponses, mais il est assez clair qu'il a maintenant une profession de foi, c'est que la droite a perdu les élections en 2012 et vraisemblablement en 2017 aussi, parce que lorsqu'elle était au pouvoir, elle n'est pas allée assez loin. Elle n'a pas réalisé tout ce qu'elle avait promis. Donc lui dit, on va faire maintenant ce qu'on n'a pas pu faire précédemment. Bien. Et dans le fond, il se positionne dans la tradition de la droite qui aime avoir un chef qui l'a conduit à la victoire. Eh bien, Laurent Wauquiez dit, voilà, le chef qui peut vous conduire à la victoire, c'est moi. Effectivement, il se heurte au problème Macron qui occupe le plan central de la vie politique française. Et si Macron réussit, Wauquiez n'a aucune chance. Mais si Macron connaît des échecs, eh bien, Laurent Wauquiez peut commencer à récupérer des électeurs, y compris au centre, en disant, voyez, moi je peux amener la droite au pouvoir.
Mais la voie est quand même étroite entre d'un côté Macron et de l'autre côté Marine Le Pen.
Aujourd'hui, Marine Le Pen, il peut siphonner ses électeurs, voilà, ça c'est clair, parce que le FN est en très grosse difficulté aujourd'hui, et effectivement, les chances de Laurent Wauquiez tiennent beaucoup à un possible échec d'Emmanuel Macron.
Merci Olivier Mazerolle. Évidemment, vous restez avec nous. On va marquer une pause dans un instant. La suite de ce MacPoll avec les coulisses de la visite d'Emmanuel Macron, justement en Guyane. Et puis le regard des premiers marcheurs sur ce qui est en train de devenir la République en marche, avec à sa tête probablement Christophe Castaner. Alors à tout de suite.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Vincent Parisot sur RTL.
Et on poursuit donc ce MacPol avec un retour sur la visite d'Emmanuel Macron en Guyane. On retiendra des incidents au début, une formule, je ne suis pas le Père Noël, qui n'est pas vraiment bien passé sur place, et puis aussi clairement la volonté présidentielle de mettre en scène ce voyage. Vous étiez donc, Vincent Derosier, aux côtés du président, et vous nous emmenez dans les coulisses.
Oui, ce voyage en Guyane, Emmanuel Macron l'a pensé dans les moindres détails. Un voyage présidentiel, vous le savez, c'est aussi l'image, la mise en scène. Le chef de l'État aime soigner ses arrivées, tout le monde le sait. Il se pose donc en hélicoptère Puma sur les rives du fleuve Maroni à la frontière avec le Suriname. L'Élysée a balisé un petit parcours à étapes dans le centre-ville, visite d'une école qui va bien, bien sûr, tablette numérique, enfants sages comme des images. Et puis, il reçoit des cadeaux, le président, une réplique de pirogue en bois pour un président aux anges.
C'est adorable, la pirogue, avec son moteur Yamaha.
Merci beaucoup.
Le moteur Yamaha, ça lui a pas échappé. Il est quand même pas venu en Guyane pour faire de belles images. Hein.
Non, le président sait bien que les attentes sont immenses. Il a d'ailleurs réponse à tout. Orpaillage illégal, immigration clandestine, insécurité. Il a bien bossé tous ses dossiers sous une chaleur accablante. Il tombe la veste. Il prendra d'ailleurs une pause pour changer de chemise, la sienne étant trempée. Et puis patatras, tout bascule quand il lâche cette petite phrase.
Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais sont pas des enfants.
La formule a été soigneusement préparée, elle est assumée, mais l'Élysée ne réalise pas à cet instant qu'à Cayenne, ces quelques mots ont été jugés provocants, voire méprisants.
Et donc à partir de ce moment-là, c'est un tout autre voyage qui commence.
Oui, des violences éclatent le soir même dans le centre-ville. Lorsque les gendarmes mobiles répliquent au jet de pierre par des gaz lacrymogènes, Emmanuel Macron est dans la résidence du préfet, le chalet de Bourdin en bordure de mer. Et le comble, c'est que là-bas, il n'y a pas de réseau téléphonique. Emmanuel Macron est quand même prévenu, je vous rassure, je peux même vous dire qu'il hésite un court instant à aller s'exprimer devant la préfecture, il se ravise tout de suite. Finalement, sa réponse, il va la mûrir pendant la nuit. Le lendemain matin, il tient une conférence de presse sur les lieux des violences, à quelques mètres du pupitre où le président s'exprime. Il y a des pavés, du verre, des grenades lacrymogènes vides. La formule du chef de l'État, elle, claque. La République, dit-il, ne cède pas aux cagoules.
Et puis alors, la fin du séjour va finalement tourner au casse-tête hein, pour Emmanuel Macron.
Oui, deux jours où le président hésite entre parler cash et renouer le dialogue avec des mots, disons, plus apaisants. Petit comité, il ne sait pas quelle stratégie adopter, ça se voit un peu. Un exemple, il devait rencontrer une délégation des 500 frères. Mais après les violences, le discours a changé du tout au tout.
Pour ma part, je n'ai jamais compté rencontrer le collectif. Soyons très clairs.
Eh ben non, ce n'est pas si clair que ça. Le président a changé d'avis. Dans la rue, le calme revient et le président va encore changer d'avis une troisième fois. Lors de ses dernières heures, il profite d'une petite déambulation pour rencontrer un représentant du collectif. Dialogue franc, direct, mais sans tension cette fois-ci. Un ultime changement de pied du chef de l'État dans un voyage qui a bien failli tourner à la Bérésina.
Merci beaucoup Vincent Derosier qui était donc aux côtés d'Emmanuel Macron pour ce voyage en Guyane. Vu de l'Hexagone, Olivier Mazerolle, comment vous avez jugé, vous, ce déplacement?
D'abord, il y a deux choses quand même. Enfin, il y a une première chose importante à noter, c'est qu'on dit souvent Emmanuel Macron, il fait de la communication, c'est-à-dire il essaye de récupérer ensuite la situation lorsque celle-ci a un peu dérapé. C'est vrai qu'il le fait. Mais il le fait au service d'une ligne politique à laquelle il ne déroge pas. Quels que soient ses auditeurs, il dit toujours la même chose. Donc, il ne fait pas de concessions. Il ne fait pas de démagogie. Il ne dit pas, je vais vous promettre tant de milliards ou je ne sais quoi. Donc, il fait de la politique. Il fait le job.
Ça, mais c'est pas, quand on arrive en Guyane en disant « je ne suis pas le Père Noël », forcément, on déçoit les espoirs.
Cette expression, d'ailleurs, Père Noël, il ferait bien le changer parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il l'utilise. Mais en même temps, ça a le mérite d'être clair. La deuxième chose, quand même, c'est que dans les petites conversations qu'il a eues avec les clandestins qui arrivent en Guyane, il a dit « on ne peut pas accueillir tout le monde ». Quand le clandestin lui dit « oui, mais moi, je viens ici pour travailler », d'accord, mais il faut d'abord que ce soit les Guyanais et les Guyanaises qui puissent travailler. Eh bien, ça a été dit en France, puisque la Guyane est un territoire français. On peut se demander, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur Emmanuel Macron qui séduit une bonne partie de l'électorat de droite, est-ce que peut-être un jour, dans l'Hexagone, on va entendre des phrases à peu près identiques. Il en parlerait peut-être d'ailleurs, puisqu'il va rencontrer les magistrats de la Cour européenne semaine de justice cette semaine.
Alors, Olivier Mazerolle, l'autre événement de la semaine politique a été la quasi-désignation officielle de Christophe Castaner hein, pour prendre les rênes de La République En Marche. Il faut dire que la décision a été prise lundi soir lors d'un dîner des historiques du mouvement. Il y avait Collomb, Ferrand, Griveaux et quelques autres. On sait que 700 membres du Conseil national vont valider ce choix de Castaner. Ce sera le 18 novembre à Lyon. Ce sera lors d'un vote à main levée, hein, je précise. En tout cas, les 380 000 militants qui sont revendiqués n'auront pas leur mot à dire. Et ça nous amène à nous demander justement ce que sont devenus les premiers marcheurs. Que pense-t-il des 5 premiers mois de la présidence Macron? Et puis, que pense-t-il de cette démocratie interne à La République En Marche? 1 an et demi après le lancement du mouvement, où en sont les marcheurs aujourd'hui pour ce mouvement politique qui se veut ouvert et novateur? Même si le gros des troupes poursuit son action aujourd'hui au sein de La République En Marche, on constate quand même les premières failles, l'apparition de frondeurs qui dénoncent notamment la structuration pas toujours très démocratique de ce parti. Alors on va, pour y voir un peu plus clair, à Marseille retrouver Hugo Hamelin. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Vous avez donc rencontré 4 marcheurs de la première heure et on va dire 4 profils radicalement différents.
Ah oui, parce que c'est vrai, dans les Bouches-du-Rhône, il y a 16 000 marcheurs, 380 000 au niveau national, vous l'avez dit et vous l'imaginez bien. Chacun avance à son allure. Alors parmi ceux dont le mouvement En Marche a vraiment changer la vie, il y a Saïd Ahamada, c'est le tout nouveau député des quartiers nord de Marseille.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que des personnes comme moi, notamment à Marseille, issues des quartiers nord de la ville, honnêtement, on avait très très peu de chances d'arriver aux responsabilités. Aucun des partis traditionnels m'aurait laissé la possibilité d'être sur une circonscription classique, en tout cas avec des chances d'être élu, ne m'aurait laissé être candidat.
Et 50 de marcheurs l'ont aidé pendant sa campagne électorale. Terminé désormais les affiches et le tractage, alors que font-ils aujourd'hui?
En tout cas, pour ce qui me concerne, mes marcheurs aujourd'hui sont organisés en équipe thématique sur des sujets particuliers, l'éducation, santé, justice, délinquance. Et chacun est organisé donc autour de ces thématiques pour essayer d'amener des propositions, de rencontrer les acteurs, de me faire remonter des choses.
Alors c'est ça le vrai changement au sein du mouvement En Marche aujourd'hui. Les militants ne sont plus seulement là pour faire élire un candidat, mais sont répartis au sein de plusieurs centaines de comités pour réfléchir et faire remonter les idées de la société civile auprès des élus. Yanis Roussel a 22 ans, c'est un marcheur de la première heure. C'est lui qui gère ces comités sur Marseille. Et aujourd'hui, il continue de tracer sa route au sein de La République En Marche.
Moi, j'ai découvert la politique. Je m'intéressais beaucoup à la vie publique. Mais grâce à En Marche, j'ai découvert ce qu'était l'engagement, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens de tous les milieux. Et maintenant, je suis fier de pouvoir continuer à travailler en bonne intelligence pour participer aux consultations publiques faites par le mouvement et puis pour travailler avec les élus de mon territoire.
Donc on l'a bien compris, ceux-là sont plutôt contents, Hugo Hamelin. Mais il y a aussi des militants d'En Marche qui n'ont pas forcément envie aujourd'hui de poursuivre l'aventure.
Et oui, forcément, car c'est beaucoup de travail et surtout c'est bénévole. Laurence Briqueteux, par exemple, c'était l'attachée de presse d'En Marche dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, elle a choisi de mettre de côté ses sandales de marcheuse pour reprendre le chemin du travail.
Ça a déjà été une superbe aventure parce que participer à la campagne d'Emmanuel Macron et ensuite des législatives, vu les résultats qu'on a eus de manière nationale mais également au niveau Bouches-du-Rhône, c'est une très belle aventure. Maintenant, l'idée, c'est de me recentrer sur ma vie professionnelle. Et donc ça, c'est vraiment un boulot à temps plein. Mais par contre, la campagne va m'aider beaucoup dans ce que je vais faire maintenant professionnellement. Donc je reste, on va dire, je reste dans l'ombre de l'équipe départementale.
Et enfin, il y a les dissidents, ceux qui ne se reconnaissent plus dans ce mouvement En Marche, trop dirigiste et qui méprise ses militants de base. C'est ce que pense en tout cas Christian Apothélose, marcheur marseillais.
La déception que j'ai, c'est que le parti politique ou le mouvement politique En Marche, il n'est pas organisé selon les valeurs qu'a porté Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il veut remettre les choses en bas. Il veut que les initiatives partent du terrain, il veut que les citoyens s'emparent des choses et fassent bouger le pays, alors que dans ce parti, avec les statuts qu'on a eus, on n'a que du descendant. C'est-à-dire qu'on n'a que des choses qui arrivent d'un centre, qui descendent vers la base étant juste chargée de faire un peu d'animation. Et moi, ce n'est pas ma conception de la vie politique et ce n'est pas ma conception de la démocratie.
Alors, La République En Marche structure-t-elle pour remporter les prochaines élections locales ou alors pour faire fonctionner au mieux la démocratie participative? Ce sera l'un des enjeux du premier congrès En Marche à Lyon. Ce sera dans moins d'un mois.
Merci Hugo Hamelin. Un mot rapide, Olivier Mazerolle. On voit qu'il y a des premières failles.
Mais Emmanuel Macron, il fait de la politique traditionnel avec des habits neufs. C'est-à-dire qu'il a fait, il a eu un coup de génie, il a créé En Marche, et ensuite ça lui a permis de dire que les mesures qu'il veut mettre en place venaient de la base. En réalité, il y pensait déjà bien avant que En Marche existe. Et quant au vote à main levée pour désigner le futur patron de La République En Marche, eh bien, ça nous fait penser à Pékin.
Eh ben voilà, c'est dit. L'agenda politique de la semaine à venir, pour conclure, avec tout d'abord demain à Paris, la 39e conférence générale de l'UNESCO. Eh bien, ce sera l'occasion pour Audrey Azoulay, l'ancienne ministre de la Culture, d'être confirmée officiellement directrice générale. Mardi, Emmanuel Macron sera à Strasbourg. Il doit prononcer un discours très attendu devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mercredi, ce sera pour la France la fin de l'état d'urgence. Vendredi, un déplacement important de Donald Trump. Il démarre une tournée asiatique. Il va commencer par le Japon. Ensuite, il ira en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. Et puis, samedi, le début d'un déplacement d'Édouard Philippe aux Antilles françaises. Cette fois, évidemment, ce sera pour les régions qui ont été touchées par les ouragans Irma et Maria. Il ira tout d'abord en Martinique, dimanche en Guadeloupe et le lundi 6 novembre à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Voilà, c'est la fin de ce MacPol. Merci Olivier Mazerolles. Et sachez que dimanche prochain, eh bien, vous retrouverez Philippe Robuchon. Dans un instant, les dessous de l'écran, l'émission Média d'RTL. On va revenir sur le rétro-pédalage de M6 pour l'émission La France a un incroyable talent. Vous savez qu'après les accusations de harcèlement sexuel concernant Gilbert Rozon, membre du jury, la chaîne avait décidé de suspendre la diffusion de l'émission. Finalement, la 12e saison qui devait démarrer jeudi sera diffusée, mais seulement à partir des demi-finales. Et le directeur des programmes d'M6, Frédéric De Vincennes, sera là pour nous en parler, comme pour évoquer le retour sur M6 de la nouvelle star. Et puis deuxième partie, le débat avec Benjamin Meffre de Pure Média et Enguerrand Renaud du Figaro. Au menu, la mutualisation du service public. France 3, France Bleu se rapproche pour faire des économies budgétaires. Est-ce un retour caché de l'ORTF ? On en parle dans la deuxième partie d'Dessous de l'écran. A tout de suite.
Le MacPol, RTL dimanche soir.